Voilà, Seigneur, nous te bénissons pour ces temps maintenant que tu nous appelles à vivre les uns et les autres. Merci pour ta parole qui vient donner un sens à notre existence. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants et les catéchumènes et leurs moniteurs qui vont entendre ta parole, mais aussi pouvoir la travailler pour répéter ensemble quelque chose à nous apporter pour le culte de Pâques. Seigneur, viens les bénir, viens les accompagner de ton esprit. Nous te prions aussi pour l'Assemblée, Seigneur, que nous puissions faire taire les voix en nous qui viendraient nous détourner de l'écoute de ta parole et que nous puissions, Seigneur, avec humilité, nous attendre à toi, nous attendre à ce que toi tu veux nous dire et laisser, Seigneur, ta parole faire son œuvre dans nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Dimanche dernier, je n'étais pas avec vous, mais j'ai participé au culte à Montpellier, où le pasteur Stéphane Couillot de Nîmes a prêché sur la sainteté dans la perspective de l'Alliance. Alors, pardon Michael, qui va du coup entendre deux fois la même prédication, hein, il sera le seul je crois, mais voilà, avec son autorisation, je voulais aujourd'hui vous partager un peu de ce que nous avons vécu dimanche dernier, parce que je crois aussi que ça n'est pas sans lien avec ce que vous-même vous avez vécu ici à Alès. D'après les retours que j'en ai eus, la semaine dernière, le pasteur Charles Nicolas vous a entretenu à propos de l'humilité et de la gloire, du fait d'être à la fois roi et serviteur. Et il est vrai que nous avons souvent de la difficulté à vivre ces deux réalités. Et pourtant, il est réellement important que nous saisissions ce que nous sommes, et même qui nous sommes en Christ, pour ne pas passer à côté des bénédictions qui y sont attachées. Est-ce que vous m'entendez bien avec ce... Ça va ? L'Épître aux Éphésiens, dont on va lire deux versets là, dans pas longtemps, hein, considère le chrétien dans sa position céleste. J'en ai lu un grand morceau tout à l'heure au début de la liturgie. Et vraiment, c'est une épître qui nous parle du ciel, en fait, de ce que nous sommes déjà dans le ciel. Alors ça paraît un peu étrange parce que nous, on se considère quand même vraiment sur terre. Mais voilà, il y a ces réalités spirituelles qu'il est important de comprendre et de prendre en considération. Ceci pour nous rappeler que le ciel n'est pas seulement un séjour futur pour le croyant. Il y possède déjà, dès à présent, son habitation en Christ. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Quand vous partez travailler, que ce soit dans un bureau, une entreprise, un commerce ou peu importe, il ne vous vient pas à l'esprit de confondre votre lieu de travail avec votre habitation. Vous êtes absent physiquement de la maison, mais cela ne vous empêche pas d'y avoir votre chez-vous, l'endroit que vous chérissez, l'endroit dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, entouré de ceux que vous aimez. Alors le parallèle s'arrête là, mais c'est un peu comme ça que nous devrions considérer le ciel, le lieu familier où se trouve à la fois notre trésor et notre cœur. Et le monde, c'est un peu notre lieu de travail, finalement. Là où se trouve notre trésor et notre cœur, parce que notre Sauveur y est. Christ est au ciel et nous sommes en Christ. Ce double fait assure notre droit d'accès aux précieuses bénédictions qui sont les siennes. Et en fait, tout ce qui concerne Christ concerne au même titre ceux qui lui appartiennent. Voilà ce que développe Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'Épître du tout, mais m'arrêter vraiment sur une notion clé. Et je vous invite à la lecture simplement des deux premiers versets. Donc, c'est les deux versets qui précèdent ce que j'ai lu tout à l'heure. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'Épître aux Éphésiens est adressée par Paul aux saints et fidèles d'Éphèse. Et c'est justement sur ce point précis que je vous propose de nous arrêter ce matin. Nous demander qui sont les saints que l'on trouve au début de cette Épître, mais aussi dans les chapitres qui suivent, puisque l'Épître est adressée à ces personnes et Paul va ensuite décliner finalement de qui il s'agit en, en, les, en les apostrophant de manière plus précise sur tel ou tel sujet. On trouve la même chose au début de l'Épître aux Colossiens, et dans la suite, pareillement. Alors, il convient de chercher le sens du mot « sainteté » dans la parole de Dieu. Et je vous recommande à ce titre, pour ceux qui sont à l'aise avec Internet, une petite vidéo d'un groupe qui s'appelle Bible Project, le projet Bible, c'est en français, et c'est très bien fait. Il y a une petite vidéo qui parle justement de cette notion de sainteté. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Dans le langage courant, en général, quand on parle de saint, on entend en réalité pur. Et ça concerne du coup la pureté morale dans notre tête. C'est-à-dire quelqu'un qui serait exempt de péché, qui aurait fait des actes de bonté suffisamment importants pour mériter ce qualificatif qu'on considère quand même souvent comme honorifique, de saint. Hein, on entend parfois dire « Ah, c'est un saint ». Or, ce n'est pas du tout, ce que nous trouvons dans les Écritures, qui nous montre à plusieurs reprises que la pureté et la sainteté ne sont pas du tout la même chose. Si nous considérons les nombreux passages où il est question de saint et de sainteté, il apparaît clairement que sainteté signifie séparation. Et appliqué à nous, ça veut dire séparation de tous ceux avec quoi nous étions jusqu'alors liés. Et la séparation, elle sert à ce que nous soyons consacrés à Dieu. J'y reviendrai. Il ne faut pas non plus confondre sainteté et sanctification. En Christ, nous dit l'Épître aux Éphésiens, nous sommes élus et mis à part pour Dieu. Nous sommes donc saints. Et ça, en fait, c'est une position. Position de sainteté devant Dieu, position de mise à part, position de consécration. Et ce même Dieu par qui nous obtenons cette position va poursuivre en nous son œuvre par l'action du Saint-Esprit. Et ça, le but, c'est de nous rendre en tout point semblables à son Fils. On trouve ça toujours dans Éphésiens, un peu plus loin, chapitre 4. Ça, c'est la sanctification et c'est un processus. D'accord ? Donc, sainteté, c'est une position. Sanctification, c'est un processus. Ça, c'était un peu pour déblayer le terrain. Ceci étant dit, revenons à notre première question. Donc, qui sont les saints auxquels l'apôtre Paul adresse cette épître, tout comme celle aux Colossiens ? Et si nous regardons l'ensemble de ces deux lettres, nous pouvons être surpris de constater qu'il est question de tout un peuple, finalement. Il est question d'adultes. Il est question de mari, d'épouse. Il est question d'enfants aussi. Dans le chapitre 5 et 6, les exhortations de la lettre aux Éphésiens s'adressent aux maris, aux épouses, aux serviteurs, à leurs maîtres, mais aussi aux enfants. Les enfants, pas tous les enfants, mais en tout cas les enfants dans le cadre du peuple de l'Alliance, les enfants sont donc considérés comme saints par le Seigneur. Ainsi que nous. Il est donc question de peuple de Dieu, de ceux qui lui appartiennent. Et en fait, tous les enfants de Dieu, en ce sens, sont saints, pas parce qu'ils sont parfaits, loin de là, mais parce qu'ils sont retirés du monde et mis à part pour Dieu. Alors je reviens brièvement sur les notions déjà abordées tout à l'heure. Que veut dire être saint ? Donc, vous l'avez compris, hein, la sanctification renvoie à un processus de transformation, une transformation intérieure qui est réelle et qui est produite en nous par l'Esprit de Dieu. Mais ça renvoie aussi donc à l'idée de consécration, le fait d'être mis à part pour une fin précise voulue par Dieu. C'est sa volonté à lui en fait, ce n'est pas nous qui décidons de devenir saints ou de prévoir quelque chose dans le dessein de Dieu. Hein. C'est Dieu qui fait ça. Et cette idée de mise à part, c'est intéressant quand on regarde notamment l'Ancien Testament, c'est que ça peut être une personne ou pas. Et qu'il n'y a pas nécessairement de changement intérieur réel. Par exemple, un agneau consacré à Dieu ne diffère pas d'un autre agneau qui ne serait pas consacré à Dieu. Alors certes, il ne doit pas avoir de tâches, etc. Mais il n'est pas non plus le seul de tout le troupeau à ne pas avoir de tâches. Dans Esdras, au chapitre 9, on a un autre exemple. Esdras appelle le peuple d'Israël la descendance sainte et en même temps, il leur reproche leur comportement, dans le même passage. On voit bien qu'il n'y a pas de lien donc, entre une pureté, une exemplarité, une perfection morale et cette sainteté qui veut dire la mise à part. Mise à part par Dieu et pour Dieu, pour l'accomplissement d'une partie de son plan. Par rapport aux enfants de croyants, on a un verset dans l'Épître aux Corinthiens qui est un peu étonnant. Hein. Alors je ne vous en fais pas l'exégèse parce qu'on n'a pas le temps, mais il nous parle du mariage, il nous parle du couple, et il parle du fait que quand il y a un croyant marié avec un non-croyant, bref, on a l'impression que les gens se demandent qu'est-ce que deviennent les enfants. Et Paul dit, autrement ils seraient impurs, alors qu'en réalité ils sont saints. Voilà ce que dit ce verset de 1 Corinthiens 7. Et le fondement de cette affirmation, en fait, se trouve justement dans la notion d'alliance. Parce que la sainteté, c'est un langage d'alliance. Ça s'attache à l'idée de descendance, notamment dans le livre de Genèse, où Abraham est mis à part ainsi que sa descendance pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Et d'ailleurs, la première fois que Dieu met à part Abraham et sa descendance, c'est vraiment un pas encore, il n'y a pas de descendance. Hein. J'établirai mon alliance entre moi et toi, entre ta descendance, avec ta descendance après toi, selon leur génération, dit Dieu. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et on retrouve en fait cette mise à part dès Genèse 3 au verset 15, qu'on a vu au début de l'année. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, toi c'est le serpent, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Cette mise à part sert la volonté de Dieu, qui en fait, depuis le début, se conserve une lignée de croyants. On a souvent la notion de reste, hein, dans l'Ancien Testament particulièrement. Dieu se conserve une lignée de croyants à travers les âges. Et on pourrait dire depuis Seth, l'enfant d'Adam et Ève, après Caïn et Abel, jusqu'au retour de Christ. Et en fait, c'est la même chose qu'on trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Les croyants, tout comme leurs enfants, sont mis à part pour l'œuvre de Dieu, de telle sorte que la promesse caractéristique de l'alliance d'Abraham est toujours à l'œuvre à l'époque de la Nouvelle Alliance. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. On trouve ça dans Actes 2, par exemple. Vous voyez le rappel, hein, le retour, la ressemblance. Dieu a donc instauré et maintenu, jusque dans la Nouvelle Alliance, le principe d'une grâce qu'il veut faire passer d'une génération à la suivante. Il n'est pas question d'anéantir quelque chose pour autre chose. Hein. On n'en est pas là du tout. C'est une continuité. C'est dans ce sens que les enfants de croyants sont saints. Dieu les met à part pour son projet, pour avoir des témoins jusqu'au retour du Christ. Parce qu'il faut rappeler ça aussi, la mise à part d'un peuple pour Dieu, ça n'était pas juste pour qu'il y ait un chouchou, hein, quelque part, mais c'était vraiment pour témoigner, pour être témoin pour les autres de qui était Dieu. Alors il faut bien l'admettre, pas plus nos enfants que nous-mêmes ne sommes saints moralement. Toutefois, il leur est conféré cette notion de sainteté, d'appartenance, une consécration spécifique pour l'œuvre de Dieu et une mise à part dans un but bien précis, c'est que la grâce de Dieu découle d'une génération à la suivante. Et c'est sur ce fondement que nous pouvons prier et plaider avec assurance pour leur salut. Parce que cette grâce, comme toutes les autres, comporte aussi une responsabilité. Et je voudrais m'arrêter là-dessus, parce qu'il ne suffit pas de se dire bah, « finalement, on est élu, on est saint, c'est formidable, et puis point ». Non, recevoir une grâce, c'est aussi recevoir tout ce qui va avec, la responsabilité de ce qu'on en fait. Et l'Écriture le dit, quand on reçoit beaucoup, il nous est demandé beaucoup. Alors certains objecteront peut-être que c'est arbitraire, puisque, en tout cas, si on parle des enfants, hein, souvent c'est sensible comme sujet, on dira qu'ils n'ont pas choisi de naître dans une famille chrétienne. Mais pensons-nous, nous, avoir choisi l'élection de Dieu? Pensons-nous l'avoir mérité? C'est l'arbitraire, si vous voulez utiliser ce mot, mais c'est l'arbitraire de Dieu, un arbitraire de grâce et de bénédiction. Et qui ne voudrait pas d'une telle position? Alors oui, on peut, et nos enfants particulièrement, peuvent pendant un temps ne pas en vouloir, se rebeller. Et on peut penser à la parabole dite du fils prodigue. Mais se rebeller, ça n'enlève pas les responsabilités liées à la grâce qui a été faite. Et même dans le monde, alors là aussi le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais quand même, c'est la même chose qu'on trouve. Dans le sens que, par exemple, on ne choisit pas de naître dans une famille pauvre ou dans une famille royale. Mais quand on naît dans une famille royale, il y en a encore quelques-unes, on hérite d'un paquet de responsabilités qui sont liées à notre position, à notre rang. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas parler comme on veut. Et le fait de ne pas l'avoir choisi, et même de ne pas en vouloir, ne nous autorise nullement à les bafouer ou à les négliger. Alors vous comprenez bien que si c'est comme ça dans le monde, c'est d'autant plus comme ça avec le Seigneur. Et de la même façon, donc, au sein du peuple de Dieu, notre position d'enfant du Père, à la suite du roi des rois, qui est aussi, Charles l'a rappelé, le roi serviteur, est assorti de responsabilité. La responsabilité d'être lumière, de demeurer attaché au cep, de tourner chaque jour les yeux vers le Seigneur, de nous nourrir de sa parole, d'être transformé par son Esprit Saint à son image. Mais aussi la responsabilité d'enseigner et de transmettre au sein de nos familles les foyers que nous représentons les uns et les autres. Transmettre les merveilles de Dieu. Les redire aux générations futures. J'insiste parce que je crois que c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Alors là, on a quand même un vrai ministère des grands-parents. Hein. Rappeler, redire aux générations futures les merveilles que Dieu a faites. Raconter à ses petits-enfants, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Responsabilité aussi de service et de règne, pour reprendre encore les propos de Charles, d'humilité et de gloire. Tout ceci nous concerne, même si nous n'avons pas envie. Et ça concerne aussi nos enfants. Le Seigneur dit « Soyez saints comme je suis saint, ni plus ni moins. » Il le dit dans 1 Pierre, mais ça cite Lévitique, hein, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, on constate que la place, notre place, ainsi que la place des enfants de croyants, et la même dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle. Alors je vous cite là quelques parallèles qui sont intéressants par rapport au devoir des parents. Dans Genèse, ordonne à tes enfants de garder la voie de l'Éternel. Dans Éphésiens, élève tes enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Le devoir des enfants. Dans Exode, honore ton père et ta mère. Dans Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents. Les bénédictions sont les mêmes. Vous vivrez longtemps sur la terre, mot à mot, Exode et Éphésiens. Dans Deutéronome, ton fils et ton petit-fils craindront l'Éternel, ton Dieu, et observeront toutes ses lois. Dans 2 Timothée, continuez à pratiquer les choses que vous avez apprises depuis votre enfance. La direction du foyer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans Josué. Là aussi, hein, au passage, Josué n'a pas demandé l'avis de ses enfants, hein. Acte 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La réalité promise, je répandrai mon esprit sur ta descendance, Ésaïe 44. Acte 2, car la promesse de l'esprit est pour vous et pour vos enfants. Et la durée de l'intégration est la même aussi, hein, dans Deutéronome jusqu'à la millième génération pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Dans Luc 1, sa miséricorde s'exerce de génération en génération sur ceux qui le craignent. Le signe d'inclusion est un peu différent, évidemment, hein, puisque dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. Tous les hommes de la maison d'Abraham furent circoncis, Genèse 17. Dans le Nouveau Testament, c'est le baptême d'eau. Acte 16, par exemple, le geôlier fut baptisé, lui et toute sa famille. On trouve la même chose avec les familles de Corneille, Lydie, Crispus, Stéphanus. Et c'est dans ce sens que nous comprenons dans notre union d'église le baptême des enfants. Alors on y reviendra hein, quand on fera la fameuse fiche théologique sur le baptême. Mais en tout cas, voilà l'idée, hein, c'est que d'une part Dieu veut perpétuer sa grâce génération après génération. C'est le sens fondamental de la mise à part des adultes, mais aussi des enfants, qui sont considérés comme saints dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, puisqu'ils recevaient le signe de l'Alliance, la circoncision, qui n'enlevait pas la responsabilité de devoir un jour produire la circoncision du cœur, hein, la grâce divine, cette grâce que Dieu veut faire courir d'une génération à l'autre, eh bien c'est sur cette même base que dans la Nouvelle Alliance, nous proposons aux enfants de croyants de recevoir le signe de l'Alliance, qui est le baptême d'eau, en attendant qu'un jour, ils puissent produire le fruit de la grâce divine, le baptême de l'Esprit, que Dieu, là aussi, veut perpétuer d'une génération à l'autre. Troisième et dernier point, non seulement nous sommes appelés à prendre conscience de notre mise à part et de notre sainteté, mais nous sommes aussi appelés à y demeurer, à la garder, à y faire attention, notamment par l'adoration communautaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin. La joie communautaire. Parce que l'Église, c'est l'assemblée des saints. On l'oublie ça, hein, on le dit, mais on oublie ce que ça veut dire. L'assemblée de ceux qui sont mis à part pour Dieu. Et en ce sens, l'Église n'est ni un club, ni une association. Et elle ne ressemble en rien à ce qui existe ailleurs dans le monde. Se retrouver entre croyants pour adorer le Seigneur et pour le célébrer, voilà qui nous aide dans notre marche chrétienne. C'est le moment où l'on va se nourrir, se ressourcer, se rafraîchir avec d'autres croyants, pas juste pour se faire plaisir, mais pour pouvoir ensuite retourner dans le monde auprès des non-croyants et d'être capable de manifester auprès d'eux notre mise à part, notre différence, notre consécration, de telle sorte que celle-ci interroge et serve de témoignage à ceux qui nous entourent. Parce qu'en fait, on est ensemble un jour sur sept, les six autres jours, on est censé manifester quelque chose. Le deuxième moyen de demeurer dans la sainteté, ça passe par l'enseignement, qui va nous permettre de façonner notre vision du monde, ainsi que celle de nos enfants et de nos jeunes. Voilà pourquoi on insiste sur l'enseignement des enfants et des jeunes dans notre union d'église. Parce que ça va permettre d'avoir une conception chrétienne de la réalité. Ça va permettre de comprendre notre place dans ce monde différemment que juste on courbe un peu les épaules et on attend que ça passe. Que chacun apprenne à utiliser les talents et les opportunités, par exemple, pour combattre le bon combat de la foi, pour ne pas se laisser embarquer dans la machine de propagande du monde qui diffuse une vision bien loin de ce que l'Écriture nous en dit. Et il s'agit donc pour les parents comme pour l'Église de transmettre la culture du Christ. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ça marche pour les mères aussi, je crois. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Genèse, Dieu dit, « Je l'ai choisi, en parlant d'Abraham, pour qu'il commande à ses enfants et sa famille après lui, pour qu'il garde la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham les promesses qu'il lui a faites. Tu les enseigneras à tes fils, tu parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Voilà le travail. Et nous ne mesurons pas à quel point le fossé est immense entre ce que Dieu dit de nous et ce à quoi il nous appelle, la sainteté, et les bas-fonds dans lesquels le monde voudrait nous entraîner. Et ce fossé se creuse toujours plus. Et je crois que ce fossé est particulièrement inconfortable pour les jeunes et pour les enfants, qui sont peut-être encore davantage dans le monde que nous, qui semblent parfois devoir manifester deux personnalités s'ils veulent correspondre à chaque monde. Or, ce n'est pas possible. Et un tel compromis est incompatible avec l'exigence posée par le Seigneur, qui dit « Vous êtes un peuple choisi ». Voilà ce que Dieu dit de nous. « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu a fait de nous des saints, il nous a mis à part pour lui, par le choix arbitraire de son amour. C'est la souveraineté de Dieu. Et ça n'empêche pas la responsabilité de l'homme. Et les gens à part, eh bien, normalement, on les reconnaît. Alors n'oublions pas ce que Dieu a fait de nous, ce qu'il dit de nous. Nous sommes consacrés par le Seigneur pour le servir et pour manifester autour de nous son amour et sa sainteté. Alors bien sûr, nous sommes élus pour être saints et irréprochables, mais nous sommes néanmoins encore sur la terre. Alors nous sommes exhortés à manifester pratiquement de tels caractères. Et c'est là où forcément c'est un processus. Hein. Soyez saints car je suis saint. Oui, on a aussi poursuivi la sainteté dans Hébreu. Soyez sans reproche et purs des enfants de Dieu irréprochables, Philippiens. Et Éphésiens nous dit, c'est le Seigneur qui réalise en nous toutes ces choses, en nous et dans l'Église, afin qu'un jour cette Église paraisse devant lui sainte et irréprochable. Vous voyez les deux notions, sainteté et pureté. Faisons-lui confiance pour qu'il achève en nous cette œuvre qu'il a commencée. Et travaillons quand même à notre sainteté. Soyons fiers de notre mise à part. Certes, elle peut nous mettre en danger, cette différence. C'est le cas dans d'autres pays, on le sent moins ici. Hein ? Mais il y a des pays où être chrétien, c'est dangereux. Mais l'apôtre Paul rappelle aux Romains qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée. Alors cette consécration à Dieu ne consiste pas à nous cacher discrètement entre chrétiens, certes on est bien, mais bien à assumer notre appel pour interpeller nos contemporains et pour leur permettre, Dieu voulant, c'est sa souveraineté, de le rencontrer à leur tour. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.